Au milieu de la douleur et de la violence qui sont les maux de notre monde, nous continuons malgré tout, du moins j'espère, à nous accrocher à cet espoir. Un jour, notre Seigneur Jésus apportera la paix ultime et véritable sur cette terre. Il nous offre par ailleurs déjà ici et maintenant un avant-goût de cette paix au travers du salut que nous expérimentons. Nous sommes en paix avec Dieu et Christ est d'ores et déjà notre paix. Cette paix-là, elle est toute spirituelle. Nous aurons en effet remarqué qu'elle n'empêche pas les bombes de tomber en Ukraine, mais elle annonce pourtant bel et bien la paix éternelle à venir dans une nouvelle création d'où toute violence sera bannie. Car Jésus est le roi de ce royaume à venir, il est le prince de la paix, comme nous le dit la très belle prophétie d'Ésaïe. Encore Ésaïe. C'est un encouragement à lire Ésaïe aussi, si ce n'est pas déjà fait. Hein. Que 66 chapitres. Ça va, hein. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. La plus grande preuve que celui qui nous a été promis est bien le vrai Dieu, et sans doute qu'il est le seul, l'unique, à être suffisamment puissant pour apporter une paix durable. Car non seulement il apporte la paix, mais il est la paix, le prince de la paix, le digne fils de son Père et de notre Père. Et de là aussi, pour ceux qui n'auraient pas compris, cette béatitude enseignée par Jésus, rappelez-vous, heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Nous sommes malheureusement habitués à un monde dans lequel la paix se dérobe inexorablement. En 2003, le journaliste Chris Hedges a entrepris de déterminer si l'humanité avait connu des périodes de paix durable. Alors, il a défini la guerre comme tout conflit actif ayant coûté la vie à plus de 1000 personnes. Et il a passé en revue 3400 ans d'histoire. Et il n'a découvert que 268 années sans guerre sur cette période. Ainsi, environ 92% de l'histoire de l'homme a été émaillée de conflits armés. De toute évidence, le peuple de l'ancien Israël n'avait pas besoin d'un journaliste pour lui dire que l'existence humaine est sans cesse assaillie par les guerres et les rumeurs de guerre. Les Israélites avaient déjà fait l'expérience directe et traumatisante des conflits, de la violence et de l'oppression. Ce dont ils avaient besoin, c'était d'un prophète, en l'occurrence Ésaïe, capable de leur offrir une vision de la paix suffisamment vivante pour contrer toutes les images d'horreur qu'ils avaient emmagasinées, qui étaient d'ores et déjà gravées dans leur mémoire. Ésaïe leur a apporté et nous apporte une telle vision. Et je vous propose une autre lecture dans ce livre, dans le chapitre 2 du livre d'Ésaïe. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. » En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ceux-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrues et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Famille de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Toutes les nations, sans exception, affluent vers la montagne de Dieu. C'est là qu'elles découvrent que l'incompatibilité souvent supposée entre paix et justice est une erreur. C'est vrai qu'au cours de l'histoire, il y a eu parfois des périodes de paix, c'est-à-dire des périodes sans guerre. Mais même alors, la justice ne régnait pas pour autant. L'absence de guerre ne produit pas la justice. Les petits continuent à être terrorisés par les grands, les pauvres par les riches, les citoyens par les juges, les contribuables par l'État. Dans le domaine, Israël et le royaume de Juda ne furent pas en reste, puisque un autre texte du livre d'Ésaïe, chapitre 1, nous dit comment la vieille fidèle est devenue une prostituée, il parle de Jérusalem. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins. Ton argent s'est changé en impureté, ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont des rebelles et sont complices des voleurs. Ils aiment tous tes pots de vin et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et à la cause de la veuve, et la cause de la veuve ne les touche pas. Similitude avec le temps actuel, fortuit, hein, encore une fois. C'est pourquoi voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu fort d'Israël. Je prendrai ma revanche sur mes adversaires, je m'en vengerai de mes ennemis. Je porterai de nouveau la main contre toi, je te débarrasserai de tes impuretés comme avec de la potasse et j'éliminerai toutes tes parcelles de plomb. L'image est forte. Hein. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient par le passé, tes conseillers tels qu'ils étaient au début. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera rachetée par la droiture, et ceux qui s'y convertiront par la justice, mais la ruine atteindra en une seule fois les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel disparaîtront. Le Seigneur apportera la paix par la justice. Chapitre 2 d'Ésaïe annonce que Dieu est juge envers les nations et règle les différends, résolvant non seulement les guerres, mais aussi et surtout leurs causes profondes. Puis l'on peut voir ce qui se passe lorsque les humains se retrouvent en présence de ce prince de la paix. Les épées et les lances qu'ils avaient apportées sur la montagne, des armes longtemps considérées comme nécessaires à leur survie en tant que nation, semblent soudain déplacées, hors de propos, inutiles. Les peuples déposent leurs armes. Mais le prince de la paix a quelque chose d'encore plus beau en tête. Son projet d'amour va bien plus loin que l'arrêt des guerres. Car voilà que bientôt, ces gens travaillent ensemble pour transformer leurs armes en outils de jardinage. L'ingéniosité humaine est rachetée de ses fins destructrices et réorientée vers des fins créatrices. On revient à un jardin à cultiver, tiens. La terre sera à nouveau un jardin. Néanmoins, évitons de nous leurrer en pensant à Ésaïe, hein, il n'est pas naïf, le prophète. Aucun prophète du fait du ministère même auquel il est appelé n'en est un. Et j'ai envie de dire qu'à la suite des prophètes, tous les autres hommes et femmes appelés par Dieu au ministère ne sont des naïfs, n'est-ce pas ? Ésaïe a vu la brutalité qui peut caractériser la condition humaine. Il en a même fait les frais, puisque la tradition dit qu'il est mort martyr, scié en deux dans un tronc d'arbre, où il s'était réfugié. Mais il a également eu un aperçu de l'avenir verdoyant, éclatant et empreint de paix que le prince de la paix a prévu pour sa création. Je pense qu'on ne peut pas tenir dans le ministère si on n'a pas chevillé au corps cette vision du royaume qui vient. Parce que la venue de ce royaume console de tout, en tout cas de la plupart des choses. Voilà en tout cas de bien magnifiques images pour rendre espoir à un prophète sans doute fatigué. Une vision du prince qui un jour fera s'exclamer aux anges lors de la nuit de Noël, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix, comme c'est étrange, paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. » Un autre passage dans le livre du prophète Ésaïe. Si après ça, vous n'avez pas envie de le lire, je ne sais pas ce qu'il faut faire. On l'appelle comme le cinquième évangile, hein, ce livre, alors qu'il vient avant les quatre autres. C'est intéressant, me semble-t-il. Ésaïe 35. « Le désert et le terrain sec se réjouiront. La plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, de même que la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Elle viendra, la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. La terre brûlante deviendra un étang et la terre aride se changera en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals pousseront des roseaux et des joncs. Il y aura là une route, un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impur n'y passera. Il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ce chemin. Même les fous ne pourront pas s'y égarer. On n'y croisera aucun lion, aucune bête sauvage ne le gravira, aucune ne s'y trouvera. Ce sont les rachetés de l'Éternel qui y marcheront. Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie. La douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est une belle vision à nouveau, non ? Ça n'a pas l'air comme ça. Voilà. Pour décrire la paix qu'apportera celui qui nous a été promis, Ésaïe utilise le mot hébreu « shalom ». Alors c'est un mot magnifique dont on perd le sens aujourd'hui, mais c'est un mot qui évoque la plénitude, l'harmonie et la santé, tout ça. Alors là, nous pourrions nous contenter de trêves précaires et de pansements superficiels en lieu et place de paix. « Shalom » désigne quelque chose de beaucoup plus substantiel. Au-delà de l'arrêt de la guerre, le shalom est avant tout une métamorphose des circonstances qui conduisent à celle-ci. Pour le dire autrement, lorsque le shalom est présent, tout fonctionne conformément à ce pourquoi il a été créé. Le shalom de Dieu rejette l'idée de la vie comme une sorte de jeu à somme nulle où personne ne gagne. Et vous envisagez l'épanouissement complet de chaque personne et de chaque chose en un même mouvement de vie, comme une sorte de printemps perpétuel où tout renaît en permanence. Le théologien Darrell Johnson explique que le terme « shalom » décrit une plénitude psychologico, je le cite, hein, psychologico, somatico, relationnello, raciallo, economico, spirituel. Je pense qu'il n'en a pas oublié. J'ai réfléchi, est-ce qu'il aurait oublié un... Non, il n'a rien oublié. Tout ce qui compose l'être humain et sa dimension relationnelle. Donc au chapitre 35 que nous venons de lire en partie, c'est cette plénitude touchant toutes les fibres les plus intimes de l'être humain et de ses relations qui nous est exposée dans un magnifique langage poétique. Alors commençons par la plénitude psychologique que le prince de Shalom veut nous offrir. Selon Ésaïe, cette paix est offerte à nos cœurs troublés et transmise par les mots « Soyez forts, n'ayez aucune crainte ». Pourquoi est-ce que nos cœurs se troublent ? Parce que nous avons peur. Et Ésaïe dit de la part de Dieu à son peuple, arrêtez d'avoir peur, n'ayez pas peur. C'est intéressant, hein, parce que c'est une des choses que Jésus va répéter le plus dans l'Évangile. N'ayez pas peur, indépendamment des circonstances autour de vous, vous ne risquez rien, je suis là, n'ayez pas peur. Et mon projet de vie qui s'annonce et qui vient, le royaume, ben la peur en sera bannie elle aussi. Qu'est-ce qui perturbe le plus les relations humaines ? C'est la peur. La peur d'être jugé, la peur d'être mal compris, la peur d'être exclu, la peur d'être considéré comme un moins que rien. Ça y paraît, hein. Mais même moi, vous savez, j'ai peur, hein, ne vous faites pas d'illusions. Hein. Donc cette absence de crainte est déjà le résultat de la paix de Dieu dans le cœur de ceux qui croient. Nous avons déjà cette potentialité parce que l'Esprit Saint habite en nous. Et tout ça jusqu'à ce que la joie, je cite, la joie et l'allégresse nous envahissent et que douleur et gémissement s'enfouissent. Le pasteur Jeremy Treat a séjourné à Kibera, un quartier extrêmement pauvre de Nairobi au Kenya. Il s'y est rendu en suivant un égout à ciel ouvert qui arrivait tout près d'abris faits de morceaux de bois et de boue séchée. De nombreux enfants jouaient nus dans la boue à proximité des eaux usées. Sur son chemin, il a croisé une fillette âgée de 12 ans, dont le guide lui apprit qu'elle se prostituait. Il se sentit profondément accablé par cette nouvelle et par les choses qu'il voyait. C'est habité par cet état d'esprit qu'il entendit les premiers sons sortir de l'endroit où il se rendait. Et au fur et à mesure qu'il se rapprochait, il finit par distinguer des voix humaines sortir de cet endroit. Le bâtiment en question était un peu plus grand que les autres et il y trouva 70 personnes rassemblées. C'était un service religieux qui se tenait là, près d'un égout. Ces hommes et ces femmes chantaient à plein poumon, louant Dieu en swahili, les bras levés en signe d'adoration. Il y vit des larmes, des sourires, de la prière et de très nombreuses louanges. Mais la question se pose, comment des gens vivant dans une telle pauvreté pouvaient-ils posséder une telle espérance et même une telle joie? En fait, je crois que c'est en visitant ce genre d'endroit que l'on sait avec certitude que le royaume est déjà venu en la personne de Jésus. Alors, pas encore dans sa plénitude, hein, ça on a bien remarqué, mais il est là. Au milieu des plus atroces souffrances et de la pire désolation, le royaume est déjà là. Ces gens n'avaient rien, et pourtant, ils avaient tout en Christ. Ils le croyaient, ils le savaient, parce que dans la pensée biblique, croire, c'est savoir. On parle de certitude. Et le pasteur tweet de conclure « Ce que j'ai vu dans cette cahute » était un aperçu de la même puissance qui renouvellera un jour toute la création. Alors qu'en est-il aussi de la plénitude somatique ou corporelle ? Dans une succession d'images saisissantes et qui ont dû être encore plus saisissantes pour les contemporains d'Ésaïe, en disant « Mais de quelle période et de quoi parle-t-il ? » Ésaïe, il proclame la restauration physique. Qu'est-ce qu'il dit ? Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux bondissent comme des cerfs et les muets crient de joie. Tiens, c'est intéressant ça. Ça devrait nous faire comprendre quelque chose. Alors nous aurons sans doute compris qu'au travers des miracles que Jésus a accomplis durant son passage parmi nous, il a annoncé la réalisation certaine et prochaine de cette prophétie d'Ésaïe. Puisqu'il a accompli tout cela, il donne le gage par ses guérisons physiques que le royaume arrive bel et bien, définitivement. Et ça va même plus loin. La création d'Ésaïe elle-même est guérie parce que l'homme l'est. Des eaux jailliront dans le désert. Et versets 1 à 2, « La steppe jubile et se met à fleurir comme les lys. Plus aucun endroit d'aridité sur la planète. » Alors qu'Ésaïe 35 atteint son point culminant, une vision radieuse de plénitude relationnelle, économique et spirituel nous est offert dans l'image d'un peuple racheté, marchant et chantant ensemble sur une autoroute de la sainteté. Il fallait bien ça pour mettre tous ces gens. Il n'y a pas de lion sur cette route d'Ésaïe. Ça, c'est plutôt rassurant. Et nous pouvons dès lors supposer que le chemin dont il est question est sans risque, exempt de tout autre ennemi prédateur ou opportuniste. Et tous les peuples entreront ensemble dans Sion, où un bonheur éternel couronnera leur tête. Ce shalom ultime, enfin réalisé, nous dit le prophète, est notre avenir. Alors, notre responsabilité, c'est d'y croire, c'est de le croire. Mais encore plus que ça. Vous avez eu le courage de venir ce matin, c'est, hein, ça vaut la peine. Hein. Dans son ouvrage Prototype, si vous préférez, l'auteur Jonathan Martin explique que, puisque le prince de la paix nous donne son esprit, nous sommes appelés à être des habitants du futur, des gens qui pratiquent d'ores et déjà ce shalom, ici et maintenant, parce qu'ils en sont habités. Le peuple de Dieu, l'Église, est une société alternative et non un simple rassemblement d'individus pardonnés. C'est une nation sainte, nous dit Pierre, une contre-culture, une nouvelle société dans laquelle le monde peut voir ce que sont les dynamiques familiales, les pratiques professionnelles, les relations interethniques et tout ce qui concerne la vie. Parce qu'on peut y voir s'y développer la vie de l'esprit. L'amour, normalement, hein. L'amour, la joie, la paix, tiens. La patience, la bienveillance, la bonté, la foi, la maîtrise de soi, la douceur. Et ses conséquences en termes de guérison de tous les effets du péché, qu'ils soient psychologiques, sociaux et physiques. Si l'Église devient vraiment ce à quoi elle est appelée par notre Seigneur, si vous baignez dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la foi, la maîtrise de soi, la douceur, l'objectif de Dieu dans tous ces fruits de l'Esprit, c'est que chacun d'entre nous soit guéri de ses blessures. Rien qu'à cause de la capacité et de la puissance de résurrection que Dieu a placée en chacun d'entre vous. L'Église est le laboratoire de la nouvelle humanité devant hériter de la nouvelle création. Nous sommes un laboratoire. Voici ce qu'écrivait C.S. Lewis à ce sujet. Une fissure a été ouverte dans les murs sans pitié du monde. Christ a foré un trou dans la barrière infranchissable qui se trouve entre nous et Dieu. Ainsi, pour nous qui sommes tous des Jacob, rappelez-vous, hein, ce patriarche roublard et menteur, nous qui avons tous apparemment gâché nos vies, qui sommes des gens n'ayant que des pierres comme oreilles, comme Jacob, hein, comme Jacob, la fameuse nuit où il vit en rêve des anges aller et venir le long d'une échelle qui descendait du ciel sur la terre, vous rappelez ? Et qui s'est dit, oh Dieu était là, je ne m'en rendais pas compte. Et il a appelé ce lieu Bethel, la maison de Dieu. Et bien pour nous tous, pour tous ces gens esquintés, pour tous ces gens pécheurs, il y a en vue une espérance infinie. Nous pouvons quand même recevoir la gloire, dit-il, C.S. Lewis, et la puissance de Dieu dans nos vies. C'est le principe que Paul développera. Un trésor dans des vases de terre. À nous regarder, on ne se rend pas compte que ce trésor est là et pourtant il y est. Pendant l'Avent, lorsque vous serez confronté à une situation dans laquelle la paix fera cruellement défaut, demandez au Seigneur quelle action ou quelle attitude ferait le plus évoluer cette situation vers l'épanouissement global de toutes les personnes et dimensions impliquées dans cette situation. Et peut-être découvrirez-vous que le prince de la paix veut faire de vous un ruisseau dans le désert, un procurateur de paix, et vous remplir d'allégresse et de joie dans cette situation. Parce que cette paix que Noël annonce au travers de la venue du Fils de Dieu en ce monde, vous l'avez en vous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.